Voilà, j'espère que chacun a eu le temps de faire les mouvements nécessaires. Comme vous avez pu le lire sur la feuille de culte, dans cette classe unique que nous avons aujourd'hui, nous allons parler de liberté, libre de dire notre foi, que ce soit à l'école, au travail, dans l'espace public. Quelle est la liberté que j'ai à dire ma foi? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je crois en public? Est-ce que je peux témoigner, voire prier sur ma place de travail ou dans la rue? En 1881, à peu près à la même époque où Rubin Sayens fondait l'église du Tabernacle, Catherine Bouff lançait l'œuvre de l'Armée du Salut en France. Je vois juste si Joas suit, mais c'est très bien, il est là, je ne vérifierai plus. Donc, Catherine Bouff lançait l'Armée du Salut en 1881 en France. Elle était la fille aînée du fondateur de l'Armée du Salut, qui avait lancé, lui, le mouvement en Angleterre. Quand elle a lancé l'Armée du Salut, elle avait 23 ans. Elle était accompagnée de deux filles, qui, je crois, étaient même plus jeunes qu'elle. C'est une fille qui savait ce qu'elle voulait. Du coup, on l'a surnommée plus tard la maréchale, ce qui veut tout dire, hein. Mais une année plus tard, elle est partie en Suisse. Elle a fondé l'Armée du Salut en Suisse et pendant 14 ans, elle va diriger cette œuvre franco-suisse avec celui qu'elle épousera aussi 6 ans plus tard, quand elle a 29 ans, et dont elle aura 10 enfants. Elle va dire « Le christianisme, c'est de l'héroïsme ». Pourquoi dit-elle ça? Parce qu'au cours de son ministère, elle va voir que d'annoncer l'Évangile à cette époque-là coûtait même beaucoup. Elle et puis tous ceux qui s'engagent dans l'Armée du Salut recueillent des sarcasmes. Il y a parfois du chahut dans leurs rencontres. Il y a même des coups. Certaines salles de réunion sont saccagées. On détruit les biens, on s'en prend aux personnes. Et il y a même des blessures qui vont s'avérer être mortelles pour quelques-uns. En fait, il n'y a rien qui sera épargné à ces premiers salutistes. À Neuchâtel, en Suisse, alors qu'elle a 25 ans, Catherine Bouff doit faire 10 jours de prison au motif qu'elle a troublé l'ordre public avant que finalement les juges daignent la recevoir et puis traiter son cas. Et finalement, ils vont reconnaître son bon droit, mais toute sa vie, elle devra affronter une opinion publique malveillante. Des gens mal informés qui propagent des idées fausses et qui ne comprennent pas ce qu'est ce mouvement. Bon, ça n'empêchera pas Catherine Bouff de mener une vie honorable, puisqu'elle va vivre jusqu'à l'âge de 97 ans. Le Seigneur a veillé sur elle, mais sa vie n'a pas été simple. Quand on va 20 siècles en arrière, qu'on se rend du temps des apôtres, nous voyons qu'ils ont été prêts à tout aussi pour annoncer l'Évangile. Ils ont voulu raconter ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu avec Jésus, et du coup ils ont connu la prison, les coups, la violence, et la plupart sont morts en martyrs aussi. Mais tous ont répondu à l'appel de Jésus, « Allez dans ce monde ». Tous ont été témoins, et c'est, le livre des Actes nous le dit, c'est l'Esprit de Dieu qui leur a donné le courage et la force dans l'épreuve. Et je vais lire un extrait du chapitre 4 avec vous, pour qu'on voit ce qui s'est passé. Acte chapitre 4, nous lisons ceci. À propos de Pierre et de Jean, pendant qu'ils parlaient ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres, accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient aussi. Ils les arrêtèrent, donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Verset 5, le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir? Au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant, responsable de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Et c'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Verset 13, les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean. Verset 15, alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle. Ils délibérèrent entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant, nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que ça s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Et là-dessus, les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. Verset 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Jusque-là, nous sommes émerveillés devant l'assurance de ces deux hommes à braver la police du temple, à comparaître devant le grand sacrificateur, le grand prêtre. On leur interdit de parler. Et que font-ils? Ils disent qu'ils vont continuer. On leur dit qu'ils vont avoir des sanctions. Ça leur est égal. Ils ne peuvent pas se taire. Ils sont animés de l'Esprit de Dieu. Et cet esprit leur donne le courage de parler et d'agir au nom de Jésus. Et on voit combien ce courage paye. Parce que le texte précise que la grâce de Dieu agit avec force en eux. À cette époque-là, la liberté d'expression n'existe pas. On entrave la liberté d'expression chez ces gens. On leur interdit de parler. On les menace. On veut leur interdire de parler de Jésus. Tout ce qui, finalement, va contre la liberté d'exprimer nos convictions. En France, aujourd'hui, l'entrave à la liberté d'expression, quand elle est concertée et qu'elle est faite à l'aide de menaces, exactement comme dans notre texte, eh bien, l'entrave à la liberté d'expression est punie de 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. La liberté de pensée, de conscience et de religion n'existe pas non plus à l'époque des apôtres. Cette liberté implique le droit de pouvoir parler de sa religion en public. Pas seulement d'individu à individu, mais même en enseignant ou en pratiquant des gestes de foi, comme Pierre et Jean ont guéri cet infirme. Mais là, avec Pierre et Jean, les responsables religieux qui gèrent finalement tout ce qui touche à la vie religieuse de la nation interdisent l'expression de leur foi en public. Ils leur interdisent d'enseigner. Ils leur interdisent de présenter ce qui est le cœur de leur conviction, la résurrection de Jésus. Et quelle est la réponse des apôtres? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les autorités sont obligées de relâcher les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pression populaire. Et quand des gens sont enfermés en raison de leur foi, c'est souvent en exerçant une pression populaire ou une pression internationale que ces gens sont relâchés. Parce que les autorités ont peur. Elles ont besoin d'être réélues. Elles ont besoin d'avoir l'approbation du peuple. Là, les autorités ont peur du peuple, qui ont vu ces miracles, qui sont enthousiasmés par Pierre et Jean. Et donc, elles décident de relâcher les deux apôtres. Par cet exemple de Catherine Bouffe, de Pierre et Jean dans le livre des Actes, j'aimerais essayer de montrer comment aujourd'hui nous pouvons avoir une chance énorme parce que la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion existe en France, comme elle n'existait pas autrefois. Cette liberté, elle est garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée en 1948, et puis par la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée en 1950. Mais même déjà la Déclaration de l'homme et du citoyen, qui a été adoptée à la Révolution française, dit ceci, vous allez le voir à l'écran, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. » Et nous vivons à cette époque extraordinaire où nous avons toute liberté pour affirmer notre foi, pas seulement en privé, pas seulement dans l'Église, mais également dans la rue, dans les lieux publics, en public, sur notre place de travail, à l'école, dans les universités. Et la Constitution française et les traités européens nous garantissent la possibilité de dire notre foi. Oui, nous sommes libres. Libres de dire la foi. La question, c'est comment ? Comment exprimer librement ses convictions aujourd'hui en France ? Nous sommes dans une société plurielle, avec des gens qui ont toutes sortes d'idées, d'arrière-plan, d'origine, de religion. Et l'objectif de l'État français, c'est de permettre à tous ces gens, aussi divers qu'ils soient, de vivre ensemble dans la paix. C'est ça le but de l'État français et de la laïcité française. Et pour cela, il y a quand même un cadre à connaître. Il y a quand même des limites à respecter pour permettre à ces gens aussi divers de cohabiter. Et c'est pour mieux connaître ce cadre qu'on va réfléchir à un moment donné, maintenant, à jusqu'où et comment nous pouvons vivre notre foi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous recommander un certain nombre de petits livres. Il y en a 5 qui ont été édités par le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, libre de le dire au travail, libre de le dire à l'école, libre de le dire dans l'espace public, libre de le dire à l'université et libre de le dire à l'église. Vous pouvez trouver ces 5 fascicules en librairie, mais vous pouvez aussi aller sur le site internet qui est simplement libredeledire.fr et vous allez avoir accès à cette documentation, en tout cas une partie de cette documentation. Pour appuyer ce que je vais dire, je vais commencer par lire quelques textes de loi. Et vous les avez reçus sur les feuilles jaunes que vous avez. La Déclaration universelle des droits de l'homme, on va les projeter aussi à l'écran. L'article 18 dit ceci. Et c'est bon de lire une fois ces textes, parce que souvent ils ne nous sont pas connus. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte, l'accomplissement de rites. Et l'article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et ce qui implique aussi le droit de chercher, de recevoir, de répandre, sans considération de frontières, donc de chercher les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et puis l'article 26 encore, les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Donc ce n'est pas à l'État d'éduquer nos enfants. Je lis encore un extrait de la Constitution française, à l'article 1, où nous lisons « La France est une république indivisible, laïque », ce qui veut dire qu'elle est astreinte à la neutralité religieuse, elle doit avoir le même traitement envers toutes les religions, « démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Alors je vais vous donner deux témoignages avant d'entrer dans quelques questions concrètes. Le premier témoignage, c'est d'un pasteur en région Centre-Val-de-Loire. Il a eu un entretien avec le maire de la ville pour lui présenter le projet d'ouverture d'une église. Et voilà ce que le maire lui a répondu. « Écoutez, monsieur, je ne peux pas vous empêcher de vous installer. » C'est la liberté. « Je ne peux pas vous empêcher de vous installer. » Mais je ne veux pas vous voir dans le centre-ville. Je ne veux voir que des choses païennes dans le centre-ville. Par contre, vous pouvez aller vous installer du côté du périphérique et là, vous pourrez faire tout le bruit que vous voulez. Ensuite, cet homme a eu un rendez-vous avec l'adjoint aux affaires sociales et là, il y a eu un autre langage. L'adjoint a dit ceci, « Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les évangéliques n'étaient pas présents sur notre territoire. » La ville a besoin de vous. Installez-vous dans un quartier qui est désaffecté au centre et vous pourrez lui redonner une nouvelle vie. On a besoin de vous. » Donc voyez, deux visions assez différentes de la manière de vivre dans l'espace public. Une église évangélique de Rhône-Alpes rapporte, elle, l'expérience suivante. C'est un des membres qui dit ceci. « Comme la Bible nous dit de prier pour les autorités, eh bien nous avons commencé à nous retrouver avec les autres chrétiens de la ville pour prier pour la mairie et notre commune. Et un an après avoir commencé, lors d'un rendez-vous avec un adjoint du maire, l'église a été invitée par la mairie à assumer une animation sur la place du marché, qui est vraiment le lieu de vie de la ville. Et aujourd'hui, 6 mois après ce rendez-vous, eh bien, nous sommes connus dans la ville pour nos chants gospel et notre bar à sirop. Et à l'approche de Pâques, eh bien, nous préparons un trio de sculptures pour expliquer le vrai sens de cette fête et compléter ainsi le témoignage par nos chants. » C'était au mois de février, je crois, Clément Blanc et moi-même avons rencontré le maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre. Ici même, on l'a invité dans notre appartement, on a pu avoir avec lui un excellent échange. Et nous sommes aperçus que la mairie apprécie notre présence dans le quartier. Le maire a même exprimé le souhait que davantage de membres de l'Église puissent venir habiter dans le quartier pour avoir un vrai impact, une vraie présence dans ce quartier et changer aussi la dynamique du quartier. Quand il y a des difficultés avec les autorités, c'est souvent lié à des questions de relations humaines. Et c'est essentiel de soigner ces relations avec les autorités de manière à ce qu'elles comprennent qui nous sommes, ce que nous faisons, le bien que nous cherchons à promouvoir, pour aussi être mieux reçus, mieux acceptés et avoir une place dans la cité. Alors, pour avancer, j'aimerais poser quelques questions. La première, c'est « Ai-je le droit d'exprimer mes convictions religieuses dans l'espace public ?» Je l'ai dit, nous avons affaire à toutes sortes d'opinions, de philosophies, de religions différentes, spécialement à Paris. Mais cela veut dire que si nous avons la liberté d'expression, ce ne sont pas que les autres qui ont le droit de parler, de s'exprimer, mais nous aussi, en tant que croyants, nous avons la même place que les autres et nous avons tout autant de droits que les autres. Nous aussi, nous pouvons faire connaître nos convictions, notre vision chrétienne du monde. La seule restriction, c'est que quand nous voulons parler de notre foi dans l'espace public, il s'agit de ne pas créer de tumulte. Il s'agit de faire en sorte que l'ordre public puisse continuer d'être respecté. C'est la seule limite. À part cela, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il n'y a aucune limite. L'État est laïque, donc lui doit être très mesuré, il ne peut pas prendre position pour l'une ou l'autre des religions, et tous les représentants de l'État qui travaillent dans la fonction publique ou dans un service public sont tenus par la même neutralité. Ils doivent représenter l'État, si vous voulez, et donc rester neutres dans leur contact avec les autres. Mais si vous n'êtes pas engagé dans une fonction publique, ou même si vous êtes engagé dans une fonction publique, mais que vous êtes hors de l'exercice de votre mission, vous êtes dans votre temps libre, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans la sphère publique. Mais il faut savoir c'est quoi la sphère publique ou l'espace public. En fait, il nous vient naturellement à l'idée que quand on dit l'espace public, ce sont d'abord aller dans la rue, ce sont les rues, les routes, mais aussi les jardins, les plages, les promenades publiques. Mais ça va plus loin que cela. L'espace public, c'est aussi tous les lieux qui sont ouverts au public. Par exemple, les magasins, les restaurants, les théâtres, les cinémas, les administrations publiques. C'est aussi tous les lieux qui sont affectés à un service public, comme par exemple les établissements de santé, les musées, les bibliothèques, les gares. Dans tous ces endroits-là, vous pouvez dire votre foi. Il n'y a aucun problème. En d'autres termes, l'espace public, c'est tout ce qui n'est pas strictement un espace privé, quand vous n'êtes pas chez quelqu'un. Notre salle polyvalente au sous-sol, où nous accueillons des bénéficiaires pour les repas chauds, est un espace public. Nous avons le droit de dire notre foi. La salle que nous avons au 167, à l'angle de la rue, est une salle publique. Et nous pouvons dire notre foi aux bénéficiaires des colis alimentaires. Rien ne nous empêche. Et ce qui montre bien que nous sommes un établissement public, c'est que nous sommes classés ERP, établissement recevant du public. Donc nous pouvons exprimer nos convictions, y compris avec les bénéficiaires des repas chauds et des colis alimentaires. Par contre, eux aussi ont le droit d'exprimer leurs convictions. Ça va dans les deux sens. Nous ne pouvons pas imposer, nous pouvons proposer. Chaque individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression dans l'espace public. Et nous avons aussi le droit de ne pas être inquiétés pour les opinions que nous formulons. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme précise encore ceci, dit « Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement, vous pouvez être seul pour le dire, collectivement, on peut le faire en tant qu'Église, en public, vous pouvez faire une manifestation dans la rue, comme on le fait par exemple avec la fête de la musique, ou en privé, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. Donc les seules restrictions, c'est l'ordre public. Nous ne pouvons pas inquiéter l'ordre public. Nous ne pouvons pas non plus nous en prendre à la liberté des autres. Si la police, par exemple, nous interdit d'être dehors pour mener une manifestation ou pour dire notre foi, nous pouvons nous appuyer sur le fait que tout ce que la police nous interdit doit avoir été nommé dans la loi. La police ne peut pas intervenir pour un motif qui ne figurerait pas dans la loi. Et chaque fois que la police intervient, il faut que ce soit strictement nécessaire, que ce soit proportionné à l'action en cours et que ce soit justifié dans une société démocratique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'interdiction de la police, il est possible de faire recours jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui, elle, va regarder si l'intervention était justifiée, proportionnée, dans une société démocratique. Donc l'État est là pour assurer le bon ordre, pour assurer la sécurité de tous et pour assurer aussi la salubrité publique. L'État est là aussi pour protéger les personnes. Je n'ai pas le droit d'attaquer, on n'a pas le droit de m'attaquer non plus. On n'a pas le droit de s'en prendre à mon matériel sonore si je suis dans la rue en train de chanter l'Évangile. La police est là aussi pour intervenir s'il y a du tapage nocturne, parce qu'elle doit préserver le calme des habitants. Et puis, c'est assez nouveau, l'État intervient aussi pour préserver la dignité humaine. Ça, c'est un peu plus sensible, parce que l'État n'a pas à juger de ce qui est moral ou immoral, et souvent quand on parle de dignité humaine, on touche vite à ce qui est moral ou immoral. L'État n'a pas à prendre parti sur les valeurs, il doit simplement préserver les personnes. Deuxième question, ai-je la liberté de tout dire? Comment est-ce que je peux respecter les droits d'autrui? Il y a un adage qui dit, vous le connaissez bien, « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. » Si je dispose du droit d'expression, l'autre dispose aussi du droit d'expression. Si j'abuse de l'exercice de mon droit, que je contrains l'autre, par exemple, à se taire, alors qu'il aimerait aussi s'exprimer, je commets une infraction. Je suis en situation d'abus. Ma liberté d'expression ne me permet pas d'insulter mon boulanger parce que je ne suis pas satisfait du pain qu'il m'a fait. La loi elle pose un certain nombre de limites quand on s'exprime en public. Notamment, je n'ai pas le droit d'inciter à la haine ou à la violence. Je n'ai pas le droit de discriminer des personnes, ni un groupe de personnes, que ce soit en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur handicap, de leur race ou de leur religion. Il y a aussi un délit quand je commets une injure publique ou que je diffame quelqu'un. C'est-à-dire que j'impute un fait ou une action à une personne qui atteint à son honneur. C'est interdit. Bon, ces limites ne sont pas toujours simples à poser et les tribunaux aujourd'hui vont de plus en plus vers une interprétation subjective qui leur permet de punir les discours de haine sur la base du ressentiment que la personne a eu. Et ça, c'est délicat, parce que je peux avoir le sentiment que quelqu'un m'a injurié ou a eu un discours de haine, mais c'est mon sentiment. C'est fréquemment le cas avec les musulmans aujourd'hui qui disent qu'il y a eu un discours de haine à leur encontre. Ça peut être le cas de lobbies homosexuels qui vont dire « on a eu un discours de haine à leur encontre ». Mais nous devons pouvoir garder notre liberté d'expression, dire ce que nous pensons. Donc à partir de quand commence la haine? La manière objective de mesurer cela, eh bien, c'est de voir si ce discours a réellement engendré un trouble de l'ordre public ou s'il y a eu de la violence qui a émané de mon discours. Et là, je suis dans un fait objectif. C'est normalement comme cela que les tribunaux devraient trancher. Aujourd'hui, il y a un petit flou qui commence à exister. C'est des questions qui sont complexes. La liberté d'expression implique que j'ai le droit de choquer, de heurter ou même d'inquiéter les autres ou un groupe de personnes, voire même l'État. Par exemple, quand un groupe de croyants descend dans la rue et manifeste pour une union fondée par un homme et une femme, comment est-ce que c'est reçu aujourd'hui dans la population? Que se passe-t-il si des croyants descendent dans la rue pour protester contre l'avortement? En fait, la liberté d'expression doit pouvoir exister. Je dois pouvoir dire cela sans que quelqu'un m'interpelle en se disant offensé et que je risque des poursuites judiciaires. Mais que se passe-t-il quand, à l'inverse, des journaux publient des textes ou des dessins satiriques qui critiquent, voire qui blasphèment Dieu, qui montrent Jésus-Christ d'une manière complètement ignominieuse? Où est-ce que s'arrête la liberté d'expression? La liberté d'expression ne s'applique pas seulement aux opinions, aux idées avec lesquelles on est d'accord, mais aussi avec toutes les idées qui peuvent nous heurter, nous choquer, nous inquiéter. Et c'est ça le pluralisme, et c'est ça la démocratie. Donc la loi définit, si vous voulez, les grandes lignes, les grandes limites, pas de haine, pas d'incitation à la violence, mais laisse malgré tout beaucoup de liberté. C'est la liberté de parole qui prévaut. Je pose une autre question. Est-ce que je peux exprimer mes convictions religieuses dans l'espace public alors que la France est un État laïque? Parfois, on pense que la laïcité exclut de parler de notre foi. Or, la laïcité, ce n'est pas priver les religions d'un espace de parole ou d'un espace d'expression, mais c'est permettre à toutes les religions de coexister pacifiquement. Quand on dit l'État est laïque, ça veut dire que sa tâche, c'est de rester neutre et d'accepter toutes les pensées, toutes les idées, de ne pas privilégier tel ou tel groupe religieux. Longtemps, la France a privilégié le catholicisme, il y a eu un lien étroit. Depuis le début du XXe siècle, il y a séparation entre l'Église et l'État, et l'État se doit de rester neutre à l'égard de toutes les religions. Mais cette laïcité de l'État, elle ne s'applique pas à la sphère privée. Elle ne s'applique pas non plus aux usagers de la sphère publique. Par exemple, si je vais à l'hôpital en tant que patient, je suis dans un lieu public, mais j'ai tout à fait le droit de parler de ma foi. Ça fait partie de ma liberté. Je peux porter un insigne qui signifie mon appartenance au christianisme. Et l'hôpital est tenu d'accorder les mêmes soins à chacun, sans aucune discrimination. Ça fait partie de son devoir de neutralité. Je peux parler de ma foi à l'hôpital, en tout cas tant que je ne trouble pas le bon ordre du service dans lequel je suis. Si je commence à passer de chambre en chambre, à faire du scandale, parce que des gens ne sont pas d'accord, ça ne va pas aller. Par contre, l'infirmière qui, elle, travaille dans un hôpital, elle se doit de rester neutre parce qu'elle agit au nom de l'État et qu'elle, elle est tenue par la laïcité. Elle va s'efforcer de répondre aux différentes demandes qui lui parviennent, mais parfois les demandes sont tellement exotiques, ça demanderait tellement de temps qu'elle ne peut pas répondre à toutes les demandes. Elle doit quand même assurer le bon ordre de son service. La liberté de manifester sa religion en public, elle implique aussi encore autre chose. Elle implique le droit de chercher à convaincre l'autre de se rallier à mon opinion. Ce qu'on appelle couramment le prosélytisme. En fait, dans les textes que nous avons lus, nous voyons que nous avons la liberté de changer de religion ou de conviction. Mais comment quelqu'un veut changer de religion ou de conviction si je ne lui expose pas mes convictions? Donc j'ai le droit d'affirmer mes convictions et même d'essayer de convaincre l'autre d'adhérer à mes convictions. Dans la mesure, en tout cas, où j'accepte aussi que l'autre cherche à me convaincre ou qu'il me signale son intérêt, enfin son désintérêt et qu'il souhaite partir, ne pas devoir m'endurer dans mon exercice de conviction. Le prosélytisme n'est donc pas un problème en soi, si on entend par prosélytisme le fait de convaincre quelqu'un d'autre. C'est autorisé. Ce qui peut être sanctionné, c'est chaque fois qu'il y a un comportement abusif, que l'on ne respecte pas la liberté de l'autre, soit d'affirmer ses convictions, soit de partir. Cette liberté d'expression, elle est fondamentale. Je peux aller dans la rue, distribuer des traités sur le marché, je n'ai pas besoin de demander une autorisation pour cela, je peux tout à fait aller librement, je peux manifester dans la rue, Ce sera sage de demander, de prévenir les autorités si ça trouble, ça bouche une rue, par exemple, s'il y a besoin peut-être d'une mesure policière pour nous protéger, mais j'ai tout à fait la liberté de manifester dans la rue. J'ai même la liberté d'aller chanter dans la rue. Il n'y a pas d'interdiction. Pour autant que je respecte l'ordre public et que je ne bouge pas le trottoir, ou que je n'empêche pas les gens de partir s'ils ne sont pas intéressés à m'écouter. Cette liberté de témoigner et même de convaincre l'autre s'adresse aussi vis-à-vis des gens d'autres religions. J'ai le droit d'essayer de convaincre un musulman ou un bouddhiste de se rallier à la foi chrétienne. Pour aller un peu plus loin, est-ce que j'ai le droit de défendre des idées religieuses en politique ou dans les médias, puisqu'on est dans un État laïque? Mais là encore, si nous avons la liberté d'expression qui est garantie, chacun peut s'exprimer, quel que soit le canal. J'ai tout à fait le droit d'être à la télévision et d'exprimer mes convictions chrétiennes. Je peux tout à fait écrire un journal dans le courrier des lecteurs et dire ce que je pense. Et je vous encourage même à le faire, parce que souvent ça a plus d'importance que vous ne le pensez, et c'est cette rubrique-là qui est lue plus que d'autres. J'ai eu l'occasion d'être invité un jour à la télévision publique de Suisse romande à parler du thème de l'homosexualité avec un plateau de gens qui ne partageaient pas forcément mes convictions. J'ai pu présenter librement mes convictions à la télévision, parler de ma foi. Bon, ça m'a valu aussi après un certain nombre de commentaires pas très élogieux dans la rubrique qui permettait de mettre des commentaires sur le site internet de la télévision. Ça fait partie du jeu. Je peux affirmer mes convictions, d'autres peuvent aussi dire qu'ils n'apprécient pas que j'affirme mes convictions. En fait, la République s'intéresse à ce que chacun puisse prendre la parole. Elle a besoin de connaître ses citoyens. Et si tout un groupe de personnes se tait, comment va-t-on prendre en compte ce qu'ils pensent? Nous avons besoin de parler, de nous exprimer. L'État français vient d'organiser les États généraux de la bioéthique. Saviez-vous que jusqu'à fin avril, vous pouviez vous exprimer, dire ce que vous pensiez sur des sujets comme l'euthanasie, comme la procréation médicalement assistée, comme le fait que des femmes puissent, ce qu'on appelle la gestation pour autrui, qu'elles puissent porter le bébé d'une autre. Vous pouviez vous exprimer sur ces choses-là. L'État français prend en compte l'opinion du peuple, des citoyens, et cet automne, le Parlement va décider sur la base de ce que les citoyens auront dit, et sur la base de leurs propres convictions, naturellement aussi. Est-ce qu'on peut avoir une activité religieuse comme la prière dans l'espace public? En fait, la liberté religieuse implique que je puisse célébrer un culte en public, même dans un lieu ouvert. J'ai aussi le droit, à titre individuel, de prier quand je suis au restaurant, même de prier à voix haute avant de manger. J'ai le droit, si je suis avec des amis et quand nous sommes au cinéma, j'ai le droit de prier avec eux, à quelque moment que ce soit. Je ne dois pas troubler l'ordre public, mais le droit de prier, je l'ai. Est-ce qu'on peut, autre question, est-ce qu'on peut en tant qu'église demander à louer des locaux de la mairie? Ben oui, nous sommes une association et la mairie doit mettre toutes les associations sur le même plan et ne faire aucune discrimination. Nous devons avoir les mêmes tarifs que les autres, ni plus cher ni moins cher, nous avons les mêmes droits. La mairie peut même décider, par exemple, de mettre à disposition une prairie pour un festival de jeunesse ou une forêt, si ça lui appartient. Et si elle refuse de mettre à disposition un espace, elle doit motiver son refus. Et si elle le motive au nom que nous aurions des valeurs chrétiennes, religieuses, eh bien c'est condamnable. Autre question encore, est-ce qu'une association a le droit de mener une activité sociale alors que c'est une association religieuse? Je pense ici à notre association Services et œuvres du tabernacle, mais aussi à d'autres associations comme l'Armée du Salut, Emmaüs, le Secours catholique. Eh bien, on a le droit d'avoir toutes les convictions que l'on veut, et ça n'empêche pas d'agir dans la sphère publique. Et même l'État apprécie, parce que ces associations viennent combler un manque, viennent faire ce que l'État ne fait pas lui-même. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons tout à fait le droit de mettre des évangiles à disposition quand nous organisons des repas chauds. Nous pouvons mettre des évangiles à disposition quand nous distribuons des colis alimentaires. Nous avons le droit de prier avant les repas quand nous avons les repas chauds, ce que nous faisons. Nous avons le droit même de méditer la parole de Dieu avant les repas chauds, ce que nous faisons aussi. Simplement, nous devons veiller à ce que personne ne soit contraint d'écouter la méditation pour pouvoir participer au repas. Si quelqu'un ne veut pas écouter, il a le droit de venir après, c'est sa liberté, et nous allons le servir quand même. Sinon, on abuserait de notre position en contraignant celui qui veut être nourri à devoir écouter ce que nous voulons lui dire. Et ça, ce n'est pas autorisé. Si quelqu'un vient au repas chaud et qu'il n'a pas envie de dire « Amen » à la prière, c'est son droit. S'il n'a pas envie de chanter lorsque nous chantons, c'est son droit. C'est sa liberté à lui. Par contre, et comme c'est arrivé aussi, quand on a un bénéficiaire de repas chaud qui vient et qui commence à cantiler une prière qu'il fait à Allah, au vu au-dessus de tous, on va dire « Bon, ce serait son droit de prier. » Sauf qu'il dérange l'ordre que nous avons, il met mal à l'aise d'autres personnes, et là nous avons le droit de lui demander d'aller ailleurs pour exercer et faire sa prière. Est-ce que nous aurions en tant qu'Église le droit d'apposer une croix sur notre bâtiment? Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez peut-être que sur le mur à borgne que nous avons là-bas, il y avait précédemment des mentions de qui nous étions. Est-ce qu'on aurait de nouveau le droit de peindre une croix, par exemple, sur ce mur gris? En fait, la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 dit qu'il est interdit d'élever ou d'apposer des signes religieux sur quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des cimetières, des musées et des édifices servant au culte. Donc nous pourrions tout à fait utiliser cette façade et dire « Église du tabernacle », mettre une grande croix, mettre un verset biblique, pour autant que nous ne troublions pas à l'ordre public. Toujours cette même question. Est-ce qu'on pourrait demander au service de la voirie de mettre des panneaux dans la rue qui indiquent comment venir jusqu'à l'église du tabernacle en voiture pour ceux qui ne connaissent pas bien les lieux? Ben oui, c'est possible. Parce qu'un lieu de culte est considéré comme une installation qui est utile aux usagers. On peut faire la demande, le maire n'est pas obligé d'y donner suite. Mais je me souviens d'avoir fait la demande quand j'étais en Alsace. Nous avions demandé à avoir deux panneaux de signalisation au maire. Eh bien, il a choisi d'en poser un sur les deux, mais de ne pas nous le facturer, alors qu'il aurait été en droit de nous le facturer. Voilà pour la sphère publique. Vous voyez que les libertés sont grandes. J'aimerais aborder en quelques mots, on ne pourra pas faire le tour de tous les sujets, je vois qu'il est déjà midi 20, mais quelle est notre liberté de dire notre foi au travail? Est-ce qu'il est vraiment possible de travailler en accord avec ses convictions les plus profondes? Je lis là aussi la Constitution française. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. C'est un beau principe, hein, pour ceux qui sont au chômage. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. La question du travail est un peu plus complexe parce qu'il s'agit de savoir sous quel régime je travaille. Si je suis salarié dans le secteur privé, je suis soumis au code du travail et donc ma liberté d'expression va dépendre de ce qui se trouve dans mon contrat de travail, dans la convention collective et puis dans le règlement intérieur de l'entreprise. Donc si vous cherchez un travail, lisez bien ces documents avant de signer votre contrat. Si je suis salarié de la fonction publique, ou si je suis salarié dans une entreprise qui assure un service public, par exemple, si je travaille dans une société de gestion des autoroutes, dans une caisse primaire d'assurance maladie, dans le domaine de la défense, de la justice, de l'éducation, de la santé, eh bien, je participe à une mission de service public et donc je dois défendre la neutralité de l'État. Donc, quand je suis en fonction dans mon travail, je dois rester neutre. Je ne peux pas parler de mes convictions. Si j'exerce en tant qu'indépendant ou si je suis membre d'une profession libérale, alors ça va être les règles qui sont propres à ma profession qui vont s'appliquer. Si je travaille dans ce qu'on appelle une entreprise de tendance, ça peut être une association confessionnelle, humanitaire, une association qui fait du lobbying, alors ma liberté d'expression est beaucoup plus importante sur ma place de travail parce qu'en fait j'étais engagé précisément parce que j'ai des convictions. Vous voyez qu'il faut distinguer l'endroit où l'on travaille. Mais quelques mots pour ceux qui travaillent dans le secteur privé. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou de ne pas dire ? Eh bien, l'employeur n'a pas le droit de vous interdire de discuter avec vos collègues. Vous avez le droit de discuter de religion, de politique, de n'importe quoi qui ne concerne pas votre travail. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire pression sur un collègue et d'insister, d'abuser de votre pouvoir. Mais il faut quand même faire une distinction entre le moment où vous parlez. Vous avez le droit de parler. Mais quand vous êtes en plein travail, il vous faut être prudent parce que votre employeur vous salarie, en fait, vous paye à la fin du mois parce que vous travaillez, pas parce que vous répandez votre foi. Donc, si vous ne travaillez plus, vous allez être en difficulté. Si vous voulez avoir une longue conversation au sujet de votre foi, ben choisissez la pause de midi, vous allez manger avec votre collègue, et là vous êtes en dehors de votre travail, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, et votre employeur, ça ne le regarde pas. Et si vous voulez avoir une complète liberté, vous allez, et même dans la fonction publique, hein, vous avez le droit de parler de votre foi dans les pauses, et parce que vous n'êtes pas en exercice. Et si vous voulez avoir complète liberté, vous invitez votre collègue à aller déjeuner le soir, après les heures de travail, et là vous pourriez lui dire tout ce que vous voulez à propos de votre foi. Qu'est-ce qu'il en est si votre employeur vous demande de faire quelque chose qui vous met en difficulté parce que ça contrevient à votre liberté de conscience? Est-ce que je dois exécuter les tâches que m'impose mon employeur? Est-ce que je peux refuser de faire un travail au motif que j'ai un cas de conscience? La première chose que à dire, c'est que je dois agir en vertu d'un principe qu'on appelle de la bonne foi. Je n'ai pas le droit, sur le moment, quand on me demande de faire quelque chose, de quitter ma place de travail ou de refuser de faire une tâche au motif que ça ne me conviendrait pas. Je dois toujours au préalable chercher le dialogue avec mon employeur. Je dois lui dire pourquoi je suis en difficulté. Essayer d'ouvrir des possibles compromis pour trouver comment je peux faire. Et puis, sauf si c'est mentionné explicitement dans votre contrat de travail, vous n'avez pas le droit d'invoquer des convictions personnelles ou des motifs religieux pour refuser de faire quelque chose. En fait, l'employeur vous a engagé, vous saviez à quoi vous vous engagiez et vous êtes censé faire ce pourquoi vous avez été engagé. C'est pour ça que c'est important de vérifier avant d'être engagé si vous êtes à l'aise avec tout. Par contre, si l'employeur vous demande de faire une mission qui vous met en danger, là vous avez le droit de refuser. Par exemple, il y a un employé juif qui a refusé une mission dangereuse que lui proposait son employeur au Moyen-Orient. Et ça, il était en droit de refuser. Si je n'ai pas le droit d'objecter, sauf pour les cas prévus dans mon contrat, est-ce qu'il y a quand même parfois des situations où je dois dire non? Les cas prévus par la loi sont les suivants. Ce sont les journalistes qui ont le droit de refuser une mission si leur journal a changé vraiment de conviction ou d'orientation. Ce sont des avocats, surtout ceux qui sont salariés, qui ont le droit de refuser de plaider pour une cause par motif de conscience. Ce sont des postes à haute responsabilité, où l'entreprise a peut-être été rachetée ou bien l'équipe de direction a changé et l'entreprise prend une autre direction, je peux plaider le motif de conscience. La question un peu plus ardue dans le domaine de la santé. Le Code de la santé publique précise que le professionnel de la santé ne peut pas refuser de soigner une personne et qu'elle n'a pas le droit de faire de discrimination dans la prévention ou dans les soins qui sont apportés. Donc un infirmier, une infirmière, un médecin est obligé de soigner tout le monde de la même manière. Je n'ai pas le droit de présenter ma foi dans ce cadre-là, puisque je suis un représentant de l'État. Je n'ai pas le droit non plus d'avoir une tenue vestimentaire qui privilégierait ma foi ou l'identification à une foi. Mais que se passe-t-il par rapport à des actes ou des soins que je ne pourrais pas accorder, qui seraient contraires à ma conscience? Il y a quelques cas qui sont prévus par la loi, et c'est intéressant de les connaître si vous travaillez dans le milieu médical. Par exemple, un médecin n'est jamais tenu de pratiquer un acte à visée contraceptive. Il peut refuser la ligature des trompes ou des canaux déférents. Par contre, il doit informer l'intéressé qu'il refuse dès le premier rendez-vous. Un médecin n'est jamais tenu non plus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Mais s'il refuse, il doit informer la personne sans délai, puis lui donner le nom de praticien où il pourra se rendre. Il n'y a aucune sage-femme, aucun infirmier, aucune infirmière, aucun auxiliaire médical qui est tenu de participer d'une manière ou d'une autre à une interruption de grossesse. La loi prévoit que vous pouvez invoquer la clause de conscience. Un établissement de santé privé peut refuser des interruptions volontaires de grossesse dans ses locaux. Par contre, un établissement de santé privé, mais qui a un intérêt collectif, ne peut pas refuser que des IVG soient pratiquées dans ses locaux. Il n'y a aucun chercheur, aucun ingénieur, aucun technicien ou auxiliaire de recherche, aucun médecin qui est tenu de participer à des recherches sur les embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires, même si la recherche a été autorisée. Par contre, un pharmacien qui refuserait de vendre des produits contraceptifs ou abortifs par motif de conscience serait condamnable. Lui est obligé de vendre ces produits-là. Vous voyez qu'il y a des règles relativement précises qui vous donnent un cadre et qui vous donnent la possibilité parfois de dire « je ne peux pas par motif de conscience ». J'aimerais terminer en donnant un ou deux témoignages pour nous encourager. Et on va terminer par là. Je vous demande encore 2 minutes. C'est un cadre bancaire en Île-de-France qui dit ceci. Pendant plusieurs années, nous sommes réunis entre collègues d'un groupe bancaire à Paris pour discuter d'un texte de la Bible. C'était un rendez-vous que nous avions chaque mois. On l'avait à la pause déjeuner dans la cafétéria de l'entreprise, parfois en extérieur. Parfois même, on se rendait à la chapelle la plus proche. Et puis, on organisait une conférence. Dans ces temps-là, on a eu de riches débats. On pouvait avoir des échanges entre collègues de confession chrétienne, mais pas tous de la même confession chrétienne. Un autre cadre de direction, qui est engagé dans la recherche en Île-de-France, dit ceci. Moi, je trouve que le principe de la laïcité est souvent mal compris, et qu'il fait croire aux managers, mais aussi aux croyants, que nous n'avons pas le droit de partager la foi en entreprise. Or, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours eu la possibilité de partager des moments de lecture avec mes collègues. Certains disaient qu'ils connaissaient Dieu, d'autres pas, d'autres se sont déclarés athées, mais tous venaient pour découvrir la parole de Dieu. Nous commencions par la lecture du texte, accompagné seulement de commentaires de compréhension et sans jamais chercher à convaincre. Et quand les participants n'étaient pas tous chrétiens, je demandais l'autorisation à ma hiérarchie et ma hiérarchie a toujours accepté, sous réserve de ne pas perturber le travail. Un autre témoignage encore, un cadre de direction en région centre. Il dit « J'ai toujours travaillé dans des entreprises internationales, dans une culture à l'américaine, on se tutoyait ». Et de manière générale, l'expression simple de la foi n'a jamais posé de problème. J'avais une collègue bouddhiste, un autre musulman, moi je suis chrétien. Et j'ai eu comme habitude de partager ma foi plutôt avec mes patrons ou avec mes pairs, beaucoup plus rarement avec mes subordonnés. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé plus difficile de le faire avec eux, parce que la relation n'est pas équilibrée et puis l'échange est faussé. Moi je suis supérieur à eux, hein, et ça pourrait être perçu comme le fait que j'impose. Et quand je le fais, c'est une fois qu'on a eu le temps de mieux se connaître et que cette relation faussée peut être plus équilibrée. Je termine en disant qu'on est loin d'avoir abordé tous les cas possibles de l'expression de la foi. Et j'encourage les jeunes notamment à se saisir des deux brochures « Libre de dire ma foi » à l'école et à l'université pour faire une soirée sur cette thématique. Mais j'espère que ce qu'on a vu ensemble va vous encourager avoir de l'audace, à oser vivre votre foi en public, sur votre place de travail. Et je prie vraiment que le Seigneur nous accompagne chacun, que l'Esprit nous donne du discernement, de la sagesse pour répandre le message de la bonne nouvelle. Et puis, comme Pierre et Jean, que nous puissions aussi dire, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Amen.